Donc le mâle est de couleur assez jaune vif, la femelle est plus terne. Par contre, les deux ont des points orangés sur les ailes. Le dessous des ailes est un peu plus verdâtre chez les deux, ce qui fait qu'au repos, les ailes fermées, on peut les confondre avec une feuille. Son corps est noir, il est recouvert d'un duvet. Est-ce que tu peux nous parler de sa longévité, le truc exceptionnel?
Effectivement, c'est le Mathusalem des papillons. L'adulte peut vivre jusqu'à un an, ce qui est exceptionnel pour les papillons. Les papillons, des fois, c'est quelques semaines. Lui, il dure un an. Et du coup, il est obligé de passer l'hiver au chaud, il se cache pour faire ça. Mais contrairement à d'autres papillons qui hibernent dans des caves ou dans des grottes, lui, il passe l'hiver dans la nature, directement sur le sol ou sous des feuilles. Et il peut même être recouvert par la neige et résister à des températures de 20 degrés. Moins 20, bien sûr, moins 20 degrés. Et quelquefois, il est recouvert par la neige et il reste quand même vivant. Et au printemps, il se réveille et c'est un des premiers papillons, c'est le premier papillon qu'on voit. C'est un peu comme les hirondelles, ils nous annoncent le printemps. Mais c'est sûrement pour profiter des primes vertes.
Effectivement, comme beaucoup de papillons, ils se nourrissent du nectar des fleurs. Et oui, les primes vertes sont parmi les premières à offrir ce liquide sucré grâce à leur floraison. Mais bien évidemment, ils profitent de beaucoup d'autres fleurs tout au long de l'année.
Et est-ce que c'est à dire que c'est un profiteur?
Non, pas du tout. C'est un arrangement de bon voisinage, une coopération, presque une symbiose en fait. En échange de sa nourriture, le citron transporte le pollen d'une fleur à l'autre. C'est donc un pollinisateur essentiel à la reproduction des plantes à fleurs de nos prairies.
Ah, puisqu'on en est à la reproduction, on pourrait parler de sa reproduction à lui. Bah, comme on l'a dit, il se réveille au printemps et dès son réveil, il se précipite sur les primes vertes et les autres fleurs. Mais le mâle se précipite aussi sur les femelles qu'il voit et il leur court après. Et tout ça pour s'accoupler. Les œufs sont pondus à la fin du printemps sur des bourgeons de nerprin ou de bourdaine. Ce sont des petits arbustes qui ont des feuilles que les chenilles aiment bien manger. Et après une dizaine de jours, les petites chenilles, qui sont vertes, naissent.
Donc si on revient un moment sur la nutrition, on peut dire que les chenilles n'ont pas le même menu que les parents. Elles grignotent les feuilles de nerprin et de bourdaine.
Exactement. Et plus elles mangent, plus elles grandissent.
Alors attends, j'ai une question, parce que comment elles font? Puisque les papillons, comme tous les insectes, ont une carapace rigide, c'est leur squelette qui est externe et fait de cuticules. Comment ça se passe?
Eh bien, elles sont obligées de changer de carapace. Ça s'appelle la mue. Il y a 4 mues qui font passer les chenilles de la toute petite chenille qui fait à peu près 1 mm de long jusqu'à la grosse chenille qui fait presque 3 cm, plus de 3 cm. Et quand elle a atteint ce stade-là, la grosse chenille devient un peu plus paresseuse, elle se fixe, elle va se fixer sur un support, et là elle va devenir immobile et elle va se transformer en ce qu'on appelle une nymphe ou une chrysalide. Et c'est la chrysalide qui va subir la métamorphose. La métamorphose, c'est-à-dire que cette chenille, qui ne ressemble pas du tout à un papillon, bah, elle va acquérir des ailes, elle va acquérir des pattes. Et quand tout est prêt, quand la métamorphose est faite, le papillon adulte ailé et sexué va pouvoir sortir de cette carapace qui était celle de la nymphe. Et ce papillon adulte, on l'appelle l'imago. Ce papillon vole, déguste le nectar, accumule des réserves jusqu'à l'automne, avant de trouver un coin pour hiberner. Mais où est-ce qu'on peut le trouver, ce papillon, Camille?
Eh bien, comme tu viens de le dire, pour hiberner, il lui faut un endroit tranquille. La forme et la couleur de ses ailes lui permettent de se cacher et d'hiverner dans la végétation, comme le hou, les ronces ou encore le lierre, sans être dérangé ou prédaté. C'est ce que l'on appelle le mimétisme, se fondre et se confondre dans son environnement pour devenir difficile à voir. Alors si c'est nécessaire, les citrons peuvent se rassembler dans les forêts et entamer une migration vers des zones propices à la ponte, c'est-à-dire plutôt vers les lisières de forêt ou les zones humides, pour trouver leurs plantes hôtes. Par conséquent, les migrations ne sont pas obligatoires et peuvent varier en intensité et en distance selon évidemment les années et les conditions de vie. Il aime tous les endroits où la nature est préservée, Et où il peut trouver des fleurs avec du nectar, hein, c'est-à-dire les clairières, les prairies, les jardins fleuris et même des friches. Bien sûr, pour les chenilles, il faut un endroit avec les plantes hôtes, c'est-à-dire des nerprins et des bourdaines.
Bah oui, il faut bien qu'elles mangent.
C'est ça.
Et côté répartition, on peut le trouver en France, où ça ?
Dans tous les départements de France métropolitaine, toute l'Europe aussi, sauf très au nord et au-dessus de 2500 mètres, l'Afrique du Nord et l'Asie mineure. Mais d'ailleurs, est-ce qu'elles sont en danger ? Est-ce qu'il y a des choses qui les menacent ?
Ah ben, elles ont des prédateurs, évidemment. Vous avez déjà vu des mésanges manger des chenilles ? Elles se font un petit régal, hein. Et c'est bien pour notre jardin, d'ailleurs. Donc, elles ont des prédateurs, parmi les oiseaux, mais aussi les araignées, les lézards, les mantes religieuses ou les guêpes. Alors, il y a une chose rigolote, ça s'appelle thanatocénose. C'est, les papillons ont un moyen de défense qui est assez curieux. Quand ils sont menacés, qu'ils voient un oiseau se rapprocher son bec un peu trop près d'eux, ils font le mort et ils tombent dans l'herbe. Et du coup, souvent, ça marche et les oiseaux se désintéressent du papillon. En réalité, le danger principal, vraiment ce qui met en danger ces papillons, c'est plutôt la pollution, et particulièrement les pesticides. Bah, parmi les pesticides, il y en a un, on appelle ça insecticide. Devinez à quoi ça sert. Hein, les papillons, ils s'en sortent pas. Faut pas oublier que, ben voilà, faut éviter les pesticides dans les champs, mais aussi dans les maisons. Leur statut par rapport aux espèces et aux classements, on dit qu'ils sont LC, c'est-à-dire qu'il y a c'est une préoccupation mineure en France et en Europe. Mais tout en étant préoccupation mineure par rapport aux insectes, il ne faut pas oublier que les insectes ont vu leur nombre ou leur masse diminuer de 75% en 30 ans en Europe. Pour finir, Camille, tu peux nous faire une petite proposition ?
Oui. Si vous êtes curieux nature, vous pouvez venir dans notre local au Val-David. Nous avons une bibliothèque où vous pourrez retrouver plein de livres, notamment concernant les papillons. Et vous pourrez notamment emprunter le numéro 96 de la Hulotte qui dédie 27 pages uniquement aux papillons citrons.
Merci Camille.
Merci Philippe.
Petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Petite terre, tu as grandi dans ce gigantesque univers, à l'endroit précis où le gris se colore de bleu et de vert. Que fais-tu là, c'est incroyable, petite fleur en plein désert. Et nous voilà dans cette fable, enfants de la terre nourricière. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Terre, petite toux, petite fièvre de rien du tout. C'est ce que les humains te disent pour s'affranchir de leurs bêtises. Nous avons brisé l'équilibre quand nous nous sommes accaparés. Tout ce qui respire et qui vibre sans jamais penser à l'après. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya.
sol et notre sel. Pour toi je ne m'en fais pas tant, tu en verras bien des printemps. Car il pleuvra comme il a plu, quand les humains auront vécu. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître. Petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres.
C'était HKL et Saltimbanque, Petite Terre. Vous êtes toujours sur Radio Biodive, sur Principe Actif, avec Philippe, Camille, Alex et Joël.
Eh bien, maintenant, nous allons recevoir un ami, qui est Jean-Pierre Dulondel. C'est le moment de l'interview.
Bonjour. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'être au téléphone avec Jean-Pierre Dulondel, qui est bénévole à la LPO et plus précisément pour le groupe Buzard. Salut Jean-Pierre.
Salut Jean-Pierre.
Salut Alex, salut Philippe. Bonjour à tous et bonjour aux amoureux de la nature.
Écoute, merci d'être avec nous. Et on avait un petit peu envie de t'interviewer sur la protection des buzards. On sait que tu es très actif dans le département de l'Eure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Peut-être pour commencer.
Oui, bien sûr, sans problème. Bien écoutez, les buzards, on a principalement trois espèces de buzards présents sur le département. Le buzard Saint-Martin, qui est le plus courant, que l'on rencontre le plus souvent, à savoir avec à peu près normalement on a 300 couples sur la Normandie, mais sur le plateau du Neubourg et sur l'Eure en règle générale, on se retrouve avec peut-être une cinquantaine de couples, mais c'est le maximum que l'on doit avoir. Après, on a le buzard cendré, mais le buzard cendré ce serait plutôt dans les plaines vers l'Eure et Loire, en dessous de Saint-André par là. Parce que nous, là, sur le plateau du Neubourg, jusqu'à présent, on a eu, depuis, 15 ans que je fais de la protection, j'ai rencontré seulement deux fois des nidifications, dont un qui a échoué et un sur lequel on a vu trois jeunes à l'envol.
Oui, et donc puis après, une espèce assez rare,
on a du buzard des roseaux, mais le buzard des roseaux, lui, est beaucoup plus sur le marais vernier.
Ouais, c'est une espèce qu'on va retrouver dans les marais plutôt. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, on va principalement parler du buzard Saint-Martin, je pense, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble? C'est un oiseau qui est moins qui est assez reconnaissable normalement.
Oui, tout à fait, parce que le buzard des roseaux, le buzard Saint-Martin, pardon, le buzard Saint-Martin est un oiseau qui est un rapace déjà. Il faut le savoir, qui est un oiseau qui va chasser essentiellement sur les plaines, le long des chemins qui passent à travers les champs de blé, les champs d'orge. Et donc le mâle, lui, est plutôt de couleur bleu-gris avec le bout des ailes noires. Donc ça, c'est très très facile à reconnaître. La femelle, par contre, elle est un petit peu plus difficile à différencier parce qu'en fait, elle ressemble à une buse. Plus petite en silhouette, Par contre, la marque très reconnaissable chez la femelle Buzard Saint-Martin, c'est qu'elle a une tache blanche, hein, ce qu'on appelle le croupion, hein, ce qui correspondrait chez nous un petit peu au lombaire, hein, entre le bas du dos et la queue, hein, chez la femelle Buzard.
Le mâle aussi a le croupion blanc, je crois.
Pardon ?
Le mâle aussi a
aussi, oui, mais on le voit moins du fait de sa couleur, hein, bleu qui tire un peu sur le blanc, hein, bleu-gris, on le voit moins. Hein. Puis ça dépend comment ils sont orientés pendant le vol.
C'est sûr.
Voilà. Donc, ce sont donc le Buzard Saint-Martin, effectivement, que l'on rencontre le plus souvent. Donc, il faut savoir que c'est un oiseau qui niche essentiellement dans les céréales, à savoir le blé.
Ah, c'est peut-être pour ça qu'il doit être protégé.
Ce sont des oiseaux qui sont protégés, effectivement. Mais le gros problème, si vous voulez, c'est que ce qui se passe, c'est que les jeunes oiseaux, souvent, ne sont pas souvent volants au moment de la moisson.
Ah, t'es en train de nous dire qu'ils nichent carrément au sol, en fait, là.
Et voilà, ils nichent au sol, hein, contrairement, par exemple, à la buse variable, hein, qui va nicher en hauteur dans les arbres. Les buzards nichent au sol.
Ah ouais, donc il faut qu'ils se dépêchent pour pas passer dans la moissonneuse batteuse, quoi.
Voilà, tout à fait. Hein, donc c'est pour ça qu'on a monté au niveau de la LPO Normandie un groupe de bénévoles. Hein, donc on est à peu près maintenant une bonne vingtaine de bénévoles à sillonner donc les plaines céréalières. On va commencer la campagne là à partir de à peu près du début avril et ça va se terminer vers le 15 août. Et donc, notre mission, en fait, c'est de rechercher les nids. Alors là, ça demande pas mal de temps, pas mal de patience. Hein. On tourne, on se place, si vous voulez, à différents points stratégiques dans les plaines, surtout en hauteur pour avoir un maximum de vue d'ensemble des plaines, hein, sur un rayon, je dirais, à 360 degrés. Et à partir de là, dès qu'on commence à trouver un mâle qui se balade avec une femelle, parce que en fait, c'est pas tellement le mâle qui compte, parce que le mâle va tourner à peu près à 5 km autour du nid potentiel. Ce qu'il faut, c'est trouver la femelle, parce que la femelle, elle, s'éloigne beaucoup moins du nid. Hein. Et là, dès qu'on a une femelle, c'est elle qu'il faut suivre avec insistance, parce que c'est elle qui va nous donner l'indication du nid. Elle va sortir du nid, elle va se reposer, il va y avoir les apports de proie éventuellement au nid, quand il y a les jeunes. Il y a le rechargement du nid quand elle a besoin de ramener des matériaux aussi, parce que des fois, il faut savoir que le nid est fait au sol avec de la paille, des branchages très fins. Hein, parce que c'est des oiseaux qui ne sont pas très forts en puissance, hein, de lever. Donc, ils mettent ça au sol, mais avec le temps, le nid arrive à s'affaisser. Et ce qui fait que lorsqu'on a des orages, les œufs peuvent être éventuellement, je dirais, refroidis par l'humidité qu'il peut y avoir dans le sol. Donc, la femelle va recharger son nid pour rehausser, en fait, les œufs par rapport au sol. Voilà.
Et alors, ce qui serait bien, c'est que tu nous dises ce que font les bénévoles pour protéger une fois qu'on a trouvé le nid. Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors voilà, dès que l'on a trouvé le nid, il faut prévenir. Alors déjà, on cherche les cantonnements, c'est-à-dire l'endroit, le champ dans lequel l'oiseau va avoir fait son nid. Une fois qu'on a identifié l'emplacement, déjà, on prévient les services de l'État, à savoir la DDTM, hein, de l'heure.
Ah oui, on travaille avec la DDTM,
c'est voilà, officiel. Tout à fait.
Direction départementale des territoires et de la mer.
Voilà, tout à fait. Hein. On a un intervenant, hein, qui s'appelle Anthony Le Pennec, qui lui est chargé, si vous voulez, de prévenir l'agriculteur, l'exploitant, hein, lui dire, attention, vous avez une espèce protégée dans votre champ, vous devez faire en sorte de le protéger et de laisser les gens de la LPO Normandie, les intervenants, les bénévoles, entrer dans le champ pour mettre une cage, enfin un parc. Hein. Maintenant, on met des parcs de 3 mètres sur 3 mètres, ce qui permet, quand il y a des couvées, par exemple, importantes, de voir entre 5 et 6, c'est rare, hein, mais ça arrive, on peut avoir 5 à 6 jeunes, hein. Mais la moyenne c'est 3 à 4, hein. Mais on peut avoir des couvées importantes. On met donc un parc de 3 mètres sur 3 mètres pour pouvoir protéger le nid quand la moissonneuse passe, elle tourne autour du nid, hein, autour du parc, sans risquer en fait de mutiler ou de tuer les jeunes buzards.
D'accord.
Oui, c'est à un moment donné, ils peuvent commencer à bouger, avoir peur et se déplacer dans le champ. Le parc, c'est pour leur permettre de pas s'écarter du nid, que après les parents puissent les retrouver, quoi.
Tout à fait. Hein, parce que avant, on utilisait ce qu'on appelle des cages traîneaux. Hein, c'était des cages qui faisaient un mètre de haut. Mais on s'était aperçu que quand les moissonneuses passaient un peu trop près, les oiseaux étant effrayés, ils trouvaient le moyen d'escalader le grillage et se retrouver dans le champ. Et là, ils pouvaient éventuellement se trouver écrasé, hein, voire mutilé. Maintenant, en mettant des parcs de 3 mètres sur 3 mètres, et en plus, on a augmenté la hauteur du grillage, on met des grillages d'1 mètre 50 de haut, et là, l'oiseau, lui, est déjà plus en sécurité, hein, même s'il est, je dirais, prêt à l'envol, parce que des fois, on a des oiseaux, ils seront à une ou deux journées prêts à l'envol avant que la moissonneuse passe, et bien, ça évite que l'oiseau sorte trop de la cage, il se cache dans le blé et ça se passe relativement bien.
Mais ça, c'est dans le cas où la nichée est trop tardive et qu'ils ne seront pas capables de voler avant la moisson, mais ce n'est pas le cas à chaque fois. J'imagine que des fois, les nichées peuvent se débrouiller toutes seules et réussir à partir avant la moisson.
Alors, oui, cela arrive, mais malheureusement, on se rend compte là d'année en année que, par exemple, l'année dernière, sur l'année 2025, on a eu 50% des nids trouvés. Hein, on avait trouvé 23 nids. On a dû protéger 11 nids parce que c'était des couvées qui étaient trop tardives. Les jeunes n'étaient pas prêts à l'envol.
Ouais, et puis les moissons sont de plus en plus tôt chaque année.
Voilà, parce qu'on a le réchauffement climatique qui vient entrer en ligne de compte. Donc ça pose un petit peu des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin en plus de plus en plus de bénévoles pour nous aider, parce que déjà les surfaces céréalières sont très importantes. Et puis il faut tourner pour trouver le maximum d'oiseaux, quoi. Okay. Sinon c'est des oiseaux qui sont condamnés à disparaître si on n'intervient pas suffisamment tôt, quoi.
Donc concrètement, tu as besoin de bénévoles, donc il y a un numéro où on peut mettre sur notre site, on mettra toutes les coordonnées, mais j'imagine que vous recherchez tous les ans des bénévoles pour déjà chercher les oiseaux, et puis après mettre en place une cage, ça demande de l'expérience, mais déjà repérer les oiseaux, je pense que vous cherchez des bénévoles.
Oui, toujours, oui. Au contraire, plus on sera nombreux, mieux ce sera, parce que il y a des secteurs comme le Vexin, par exemple autour des Andelys, on avait un bénévole qui avait commencé à monter une équipe, malheureusement qui a dû se retirer, et donc il n'y a plus d'équipe sur le Vexin. On a sur la partie Bourtroude au nord du Roumois, où là effectivement c'est pareil, on n'a personne, hein. Donc il faut qu'on arrive à trouver du monde aussi, parce qu'il y a des busards aussi par là. Et donc, il faut du monde. Donc, on peut éventuellement contacter soit directement sur le site de la LPO Normandie, notre blog, hein, puisqu'on a un blog sur la protection du busard où on peut retrouver notre action.
Ok, on mettra ça sur notre podcast.
Et sinon, on peut nous appeler soit directement au 06 14 88 22 70, qui est mon numéro personnel. Il n'y a pas de souci, c'est mon numéro qui sert aussi pour les busards.
On le mettra aussi.
Ah, et puis il y a le numéro de la LPO, hein, directement, hein, qu'on peut appeler. Là je ne l'ai pas sous les...
On mettra tout sur notre site. Écoute Jean-Pierre, on te remercie, on vous souhaite bon courage pour cette saison qui va commencer là. Et moi je sais que les busards sont déjà remontés, parce que c'est une espèce qui vit en Afrique l'hiver, et ils sont déjà remontés, et on les voit déjà, donc,
Oui, commence à y avoir des remontées de mâles. Alors il faut savoir que le Saint-Martin, hein, il est assez sédentaire en France, hein. C'est surtout le cendré et le busard des roseaux qui a tendance à migrer, mais le Saint-Martin, lui, est assez sédentaire. On a quelques busards Saint-Martin qui passent l'hiver, mais c'est ceux qui étaient au nord qui sont redescendus chez nous, et les nôtres étaient redescendus vers la Loire, hein.
Ok,
en tout cas, c'est super boiseau. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Et à bientôt autour d'un champ.
Salut. À très bientôt, les amis. À très bientôt. Et bon week-end à tous les gens dans la nature.
Salut.
Après ce bel échange avec notre ami, eh bien, c'est le moment des sorties du mois.
Ça se passe près de chez vous.
Alors, on commence en beauté avec le lancement du nouveau programme des animations Découvrez la nature dans l'heure le samedi 4 et dimanche 5 avril à Harcourt, où vous pourrez notamment venir rencontrer les salariés bénévoles de l'ASSO NR présents à cet événement. Toujours dans la thématique des DNE, je vous propose deux animations. Le samedi 11 avril à 14h, partez avec le conservatoire sur les rives de Seine à Fatouville-Grestin pour découvrir les habitants méconnus de la mare. Et si vous préférez plutôt les milieux terrestres, vous pouvez tenter l'aventure du coteau sans dessus-dessous le 25 avril pour découvrir la faune et la flore sur le coteau avec un botaniste du conservatoire. Puis vous faufilez sous terre pour découvrir la géologie et la faune particulière qui se trouve sous nos pieds. Retrouvez toutes les animations sur le site internet lanaturedansl'heure.fr. Autre salle, autre ambiance, le 9 avril à 18h30 au Val-David, vous pouvez participer à la formation de la LPO sur les laridés. Ce sont les mouettes, goélands et autres oiseaux du bord de mer. Le samedi 18 avril et samedi 25 avril, de 10h à midi, partez à la découverte de la réserve ornithologique de Pause avec un guide ornithologique pour observer les oiseaux d'eau. Vous pouvez retrouver toutes les sorties et infos sur le site de l'émission et si vous souhaitez faire la promo de vos sorties nature, vous pouvez nous contacter. On vous demandera juste de faire un petit enregistrement qu'on diffusera à la prochaine émission.
N'hésitez pas parce qu'on n'en a pas encore eu. Merci Camille. Et bah c'est le moment de passer au conseil de lecture avec Joël Jingle.
Eh bien, le livre que je vous présente aujourd'hui est de ceux que j'appelle « livres qui font du bien ». Il s'agit du livre de l'auteur polonais Stanisław Lubiański, « Le parti pris des oiseaux ». C'est un livre à aborder comme une balade à travers différents thèmes proposés par l'auteur. La naissance de sa passion pour les oiseaux, ses références, ses choix de voyage, toujours liés à l'ornithologie, et une multitude d'observations et d'anecdotes liées au monde des oiseaux. Il nous promène donc dans ses réflexions et aborde, entre autres, des références à des œuvres littéraires, picturales, cinématographiques ou musicales. Des réflexions sur l'état de notre environnement et la résilience de la nature, sa participation à des séances de bagages dans une station ornithologique, les différences entre photographe et ornithologue, la difficulté à concilier biodiversité et urbanisme. Même si l'ambiance générale du livre est plutôt rassurante et positive, l'auteur n'oublie pas d'évoquer tous les problèmes qui existent, pollution, destruction des habitats, disparition d'espèces, etc. L'auteur aborde les choses de façon objective, sans acrimonie, mais avec clarté. Pour illustrer son propos, il cite souvent quelques anecdotes amusantes. Savez-vous, par exemple, comment Ian Fleming a baptisé, pourquoi Ian Fleming a baptisé 007 du nom de James Bond ? C'est tout simplement le nom d'un ornithologue réputé des Caraïbes qui avait fait un guide Birds of the West Indies et Ian Fleming avait trouvé son nom intéressant. Connaissez-vous aussi le Birding Compulsive Disorder ? C'est une focalisation excessive sur les oiseaux qui d'ailleurs touche beaucoup d'ornithologues. C'est pour ça que quelquefois on les voit s'interrompre au milieu d'une conversation pour écouter ou regarder autour d'eux un oiseau qui passe. Ça donne quelquefois lieu à des coups de frein brutaux de gens qui regardent les oiseaux et qui s'arrêtent rapidement. Certains autour de cette table se sentiront un peu concernés. Les ornithologues aussi sont habitués à repérer les chants d'oiseaux dans les films et surtout d'ailleurs ceux qui ne vont pas parce que quelquefois ça ne correspond pas forcément à l'endroit ni au moment. Il nous raconte aussi, par exemple, comment Mozart, en traversant un parc à Vienne, a entendu un oiseau siffler une mélodie qu'il venait de composer quelque temps auparavant, mais qui n'avait jamais été diffusée. Il a pensé que l'oiseau l'entendait siffloter en traversant le parc régulièrement et qu'il avait fini par reproduire ce chant. Donc ce livre contentera l'ornithologue comme le néophyte. C'est un hommage à la nature qui nous invite et nous encourage à nous sentir pleinement en faire partie. Regarder, contempler, entendre, écouter, sentir, éprouver, toucher, goûter, tous les sens sont sollicités comme on le découvre au long des chapitres. De plus, cette découverte du monde est accessible à tous, quels que soient ses moyens, niveau de connaissance ou appétit de connaître. En conclusion, on peut dire que ce livre est comme une bible où l'auteur évoque au fil des pages toutes ses réflexions, expériences, connaissances. Cela fait un ensemble qui peut sembler un peu décousu parfois, mais qui nous transporte dans tout un tas d'univers, d'ambiances, et qui, au final, nous donne une approche globale de ce qui peut être un passionné de la nature en général, et des oiseaux en particulier. Sa lecture pourrait même inspirer cette pensée, Cessez de courber l'échine devant vos smartphones. Redressez-vous plutôt pour admirer ce que la nature nous donne. En plus, ça rime.
Merci Joël. Effectivement, je me suis senti concerné dans plusieurs exemples. C'est le moment de donner la réponse à notre petit